Nous allons donc lire dans le livre du prophète Amos, premier chapitre, les versets 1 et 2. Deux versets pour aujourd'hui qui vont, je l'espère, nourrir notre réflexion et au-delà de notre réflexion, notre foi. Lisons donc Amos chapitre 1, versets 1 et 2. Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, « De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il donne de la voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. » Prions. Nous voulons te remercier une fois de plus, Seigneur, de nous donner l'occasion de lire et d'étudier librement ta parole, et nous voulons affirmer de nouveau que ta parole est la vérité, et nous te demandons de nous sanctifier par ta vérité. Seigneur, applique ta parole, s'il te plaît, à nos vies, par la puissance de l'Esprit-Saint, et au nom de Jésus. Amen. On n'a pas besoin de Dieu pour être bien portant, pour être riche, pour connaître le confort, la sécurité, la santé et le bonheur. Franchement, la France subit la crise économique mondiale à un degré moindre que les autres pays. Mais ce n'est pas parce que Nicolas Sarkozy organise des réunions de prière tous les matins à l'Élysée. Vous-même, vous recevez peut-être des indemnités maladie, des allocations familiales, vous bénéficiez de congés payés, peut-être d'une pension pour la retraite, peut-être du RMI ou du RSA ou de l'APA ou de l'APL ou de l'API ou de l'ASI ou que sais-je encore comme genre d'allocation. Mais les chèques que vous recevez ne sont pas tirés sur le compte du paradis. En cas de conflit civil ou militaire, les forces de l'ordre qui sont déployées pour votre défense, qu'elles soient habillées de bleu, de noir, de gris ou de vert, ce ne sont pas des armées d'anges. Alors franchement, on n'a pas besoin de Dieu pour connaître le confort, la sécurité, la santé et le bonheur. Pourquoi s'intéresser à Dieu même? Vous savez, cette attitude n'est pas très éloignée de celle qu'on peut avoir même en tant que croyant. Nous vivons dans un tel contexte qu'il est possible pour nous de nous installer dans un confort qui nous fasse imaginer, bien malgré nous peut-être, inconsciemment peut-être, qu'au fond, on peut très bien se passer de Dieu. Et cette tendance, en fait, n'est pas nouvelle pour les croyants. En l'an 750 avant Jésus-Christ, par exemple, le peuple de Dieu en a fait l'expérience de cette tendance. Le peuple de Dieu est alors divisé en 2 royaumes. Si vous venez le jeudi soir, vous savez exactement de quoi je parle. Le peuple de Dieu est alors divisé en 2 royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Et à cette époque, vers l'an 750 avant Jésus-Christ, les 2 royaumes connaissent une certaine prospérité économique et une vraie sécurité militaire. Au nord, le roi, il s'appelle Jéroboam. C'est un mauvais roi, un roi idolâtre, totalement infidèle à Dieu, mais ça n'empêche pas à Jéroboam de renforcer les frontières du pays, de faire connaître la croissance à son royaume. Au sud, il y a un autre roi qui s'appelle Ozias. Ozias, lui, c'est un bon roi. Mais l'histoire nous raconte, et vous pourrez la vérifier dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 26, l'histoire nous raconte que la prospérité économique qu'il a connue, ainsi que sa puissance militaire, ont fini par le faire tomber dans la présomption et dans la suffisance. Et cela a entraîné sa perte. Au nord comme au sud, en Israël au nord comme en Juda au sud, les gens connaissent le confort et la sécurité indépendamment d'une relation fidèle à Dieu. Alors à quoi bon, hein ? À quoi bon s'intéresser à Dieu? Au fond, les gens se disaient qu'on pouvait très bien se passer de l'Éternel. Et c'est dans ce contexte que débarque le prophète Amos, que Dieu envoie vers son peuple pour lui faire prendre conscience à son peuple de la situation dangereuse dans laquelle il se trouve. Et le texte que nous avons lu, ces deux versets que nous avons lus tout au début du livre du prophète Amos, c'est l'introduction, évidemment, l'introduction à tout le discours prophétique qu'Amos va avoir dans ce contexte. Et comme toute bonne introduction, le but de ces premières lignes est de capter l'attention des auditeurs. Le message de ces deux premiers versets, en définitive, est assez simple. C'est que si nous ne nous intéressons pas à Dieu, ça ne veut pas dire pour autant que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Si nous ne nous intéressons pas à Dieu, ça ne veut pas dire pour autant que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Ce n'est pas parce que nous pensons pouvoir couper les ponts avec Dieu que Dieu va nous laisser tomber. Et on va voir ce matin, j'espère, que ce texte cherche à nous secouer dans notre indifférence, voire notre léthargie. Ce texte va nous secouer pour essayer de nous ramener à la réalité, à nous faire prendre conscience du caractère néfaste et illusoire du confort dans lequel nous sommes installés, pour nous faire tourner notre attention vers Dieu, pour nous faire tourner notre attention vers Dieu, parce que Dieu a des choses importantes à nous dire. Mais comment s'y prend-il pour se faire entendre? Comment se prend Dieu pour se faire entendre? Alors regardons ce texte un peu plus en détail. Le livre d'Amos commence avec une affirmation étonnante, qui ne paraît peut-être pas étonnante à première vue. Les premiers mots sont « Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël. » Tekoa, mes amis, c'est pas un genre d'animal, éleveur de Tekoa. Non, Tekoa, c'est une ville du royaume de Juda, située une vingtaine de kilomètres, si vous voulez, au sud de Jérusalem. Tekoa, c'est dans le royaume du sud, dans le royaume de Juda. La phrase d'introduction du livre d'Amos nous apprend donc, et c'est un peu le titre de ce livre, qui nous apprend qu'un obscur berger des campagnes de Juda a reçu des révélations de la part de Dieu au sujet du royaume voisin. Cette première affirmation a pour but de montrer au lecteur par quels moyens incongrus Dieu choisit parfois de se faire connaître. Les moyens de Dieu pour se faire connaître ne sont pas les moyens du monde. Les moyens de Dieu pour se faire connaître ne sont pas les moyens du monde. Imaginez que quelqu'un vienne taper à votre porte un jour et prétende avoir des choses à vous dire de la part de Dieu. C'est ça un prophète, c'est quelqu'un qui vient vous dire des choses de la part de Dieu. Alors imaginez que quelqu'un tape à votre porte, vous ouvrez, bonjour, je viens vous dire des choses de la part de Dieu. Est-ce que vous prêteriez plus de crédibilité à celui qui se présenterait en habit d'ouvrier taché de plâtre et de peinture et qui parlerait avec un accent portugais en faisant plein de fautes de conjugaison? Ou bien, est-ce que vous prêteriez plus de crédibilité à celui qui se présenterait en costume, avec un diplôme en théologie, des papiers en règle et une maîtrise parfaite de la belle langue française? Mais dans ce texte, c'est l'ouvrier portugais, entre guillemets, qui est chargé de dire des choses de la part de Dieu. J'ai dit portugais, pas brésilien, portugais. Si l'origine d'Amos est précisée d'entrée, c'est donc bien pour nous faire comprendre que les moyens de Dieu pour se faire connaître ne sont pas les moyens du monde. Moi, personnellement, si j'avais voulu rappeler à l'ordre les habitants du royaume d'Israël, je ne leur aurais pas envoyé un étranger, je ne leur aurais pas envoyé un vulgaire éleveur d'une sombre bourgade dans la campagne près de Jérusalem. Mais moi, je leur aurais envoyé personnellement un éminent sacrificateur spécialiste de la Torah, vous voyez, ou bien un prince de la lignée de David pour les rappeler à l'ordre. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Qu'est-ce qui est propre à attirer notre attention aujourd'hui, en 2009, en France? N'est-ce pas ce qui est spectaculaire? N'est-ce pas ce qui est tout scintillant, ce qui en impose, ce qui reflète en fait nos propres aspirations à la richesse, au pouvoir, à l'intelligence, à la célébrité, en un mot, ce qui est mondain. Mais Dieu n'est pas mondain. Dieu n'est pas mondain. Les moyens de Dieu ne sont pas les moyens du monde. Dieu n'est pas dans les paillettes. Dieu n'est pas dans les guirlandes scintillantes, n'est-ce pas? Dieu ne fait pas dans la démonstration de richesse et de célébrité. Dieu a choisi un pauvre berger dont personne n'avait entendu parler auparavant, un étranger, pour se faire entendre. Rappelez-vous pour Élie, sur le mont Horeb, Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tonnerre. Pardon, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais Dieu, il était où? Le texte nous dit qu'il était dans un son doux et subtil. Pour les mages venus d'Orient, qui ont suivi l'étoile du roi, Dieu n'était pas dans le palais somptueux du roi Hérode, où ils se sont arrêtés à un moment donné, mais il était sous forme de petit bébé, dans une modeste maison de Bethléem. Pour les foules qui ont acclamé Jésus lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, vous savez, sur le dos d'un âne, Dieu finalement n'était pas dans une puissante révolution militaire contre l'occupant romain, mais Dieu, il était dans la mort du serviteur souffrant et obéissant qui a donné sa vie sur la croix. Vous voyez que les moyens de Dieu ne sont pas les moyens du monde. Dieu s'intéresse à nous, mais il ne va pas faire une annonce à la télé pendant le 20h, voyez. Il ne va pas écrire ses messages dans le ciel. Peut-être nous parle-t-il plutôt à travers un vieux livre poussiéreux qu'on a hérité de notre grand-mère. Peut-être nous parle-t-il à travers le témoignage de cet humble collègue ou camarade de classe que personne n'aime, mais dont vous avez entendu dire qu'il était chrétien. Peut-être Dieu parle-t-il encore dans une petite salle un peu incongrue au pied d'un immeuble dans la rue Mazenod, vous savez. Les moyens de Dieu ne sont pas les moyens du monde. Mais regardons la suite du texte. Après cette petite introduction, la première parole d'Amos va consister à insister sur un point précis. C'est de Sion que l'Éternel rugit. C'est de Jérusalem qu'il donne de la voix. Quand un lion rugit, c'est généralement pour signaler sa présence. Soit pour rameuter, soit pour intimider, soit pour marquer tout simplement son territoire. Alors, Amos insiste sur le fait que l'Éternel, et il utilise là le mot pour Dieu, le titre Yahvé, le nom de l'Alliance, de ce Dieu de l'Alliance, Yahvé qui s'est révélé à Moïse depuis le buisson ardent, vous vous souvenez, ce nom qui est trop saint pour être prononcé même par les Juifs. Et bien Amos insiste sur le fait que l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, signale sa présence et il se fait entendre depuis un endroit précis. Depuis un endroit précis, et il le donne cet endroit, c'est Jérusalem. C'est Sion, c'est Jérusalem, qui est la capitale historique du peuple élu, qui est le centre de gravité, en fait, de la relation particulière qui existe entre Dieu et son peuple, puisque c'est là, à Jérusalem, à Sion, que se trouve le temple. La première parole d'Amos dans sa prophétie va consister donc à rappeler au peuple que Dieu demeure fidèle à l'alliance, à son alliance, et que Dieu n'a pas déserté son peuple malgré l'infidélité de celui-ci, malgré son indifférence. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ça? Si on étudie la Bible, on va découvrir que le temple de Jérusalem était censé préfigurer cette relation privilégiée et perpétuelle que le Messie devait établir une fois pour toutes entre Dieu et son peuple. Allez relire 1 Chronique, chapitre 17, par exemple, pour voir quelles promesses étaient attachées à la construction du temple à Jérusalem. Et Jésus est venu dans l'histoire comme ce Messie promis et annoncé longtemps à l'avance. Et il a accompli précisément et parfaitement et complètement ce que le temple annonçait. Jésus est venu de la part de Dieu. C'est la Bible qui nous l'explique, j'invente rien. Jésus est venu de la part de Dieu pour régler une fois pour toutes le problème qui faisait obstacle à la relation entre Dieu et son peuple. J'ai nommé le problème du péché. Jésus a réglé ce problème en prenant sur lui le châtiment des fautes de son peuple, afin que tous ceux qui se confient en lui puissent recevoir par grâce le pardon de leurs fautes et être réconciliés avec Dieu et entrer dans cette relation privilégiée et perpétuelle avec Dieu, cette relation qui était préfigurée par les murs du temple, par les sacrifices qui avaient lieu dans le temple, par toute l'architecture du temple. Après être mort sur la croix, pour prendre sur lui le châtiment des fautes de son peuple, l'histoire se poursuit en nous expliquant que Jésus est ressuscité comme gage de sa victoire sur le mal et de sa suprématie dans tout l'univers. Et il nous invite par la foi à devenir des sujets de son royaume éternel. Voilà ce qu'a accompli le Messie. Voilà ce qui était préfiguré par le temple de Jérusalem. Et quelques années après la résurrection de Jésus, quelques années après son ascension auprès du Père, comme les évangiles nous le racontent, eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, on pouvait s'y attendre. Le temple a été détruit. Le temple a été rasé. Et il n'a pas été reconstruit à ce jour, le temple de Jérusalem. En revanche, l'apôtre Paul nous parle du temple de Dieu. Et il nous dit que le temple de Dieu ici-bas, aujourd'hui, c'est l'Église en tant que peuple de Dieu. Parce que Dieu demeure au milieu de son peuple. Parce que l'Église est appelée le corps de Christ. Jésus-Christ, le Messie, est le chef de l'Église. Vous voulez savoir quel est le centre de gravité, si j'ose dire, ou la capitale géographique, ici-bas et aujourd'hui, de la relation entre Dieu et son peuple? C'est l'Église. C'est l'Église. L'offre de grâce qui était préfigurée par le temple de Jérusalem, en 750 avant Jésus-Christ, mais déjà depuis quelques décennies avant ça, depuis qu'il est construit. L'offre de grâce qui était préfigurée par le temple de Jérusalem, elle vous est proposée aujourd'hui. Elle vous est présentée aujourd'hui en 2009. Elle continuera d'être présentée au genre humain jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le lion de Juda, est venu en personne tout accomplir à votre place pour que vous puissiez entrer dans cette relation privilégiée et perpétuelle avec Dieu. Aujourd'hui, le lion continue de rugir depuis Sion, c'est-à-dire depuis l'Église, parce que Dieu n'a pas déserté les hommes, mais il continue à se faire entendre malgré notre rébellion. Le lion rugit, le lion de Juda rugit depuis l'Église pour signaler sa présence, pour marquer son territoire. Il rugit pour rameuter les membres de sa famille, si j'ose dire. Il rugit également pour menacer les ennemis et pour repousser l'adversaire. Voilà ce que Jésus fait depuis Sion, depuis l'Église aujourd'hui. Tout cela a lieu, vous savez quand? Tout cela a lieu lorsque l'Église locale proclame fidèlement la parole de Dieu. Faudrait que j'y repense à ça. Quand on proclame la parole de Dieu, le lion rugit depuis Sion. De Jérusalem, nous dit Amos, l'Éternel donne de la voix. Il se fait entendre, malgré l'indifférence, malgré l'infidélité du peuple. Amos, le sombre berger d'une contrée étrangère, débarque avec un message clair et insistant. Vous pensez peut-être inconsciemment que vous pouvez très bien vous passer de Dieu, mais sachez que ce n'est pas parce que vous vous désintéressez de lui que lui a cessé de s'intéresser à vous. Il n'a pas déserté son peuple. Il continue de se faire entendre jusqu'en 2009 et au-delà, depuis l'Église. Est-ce que vous prêtez attention au son de sa voix? Est-ce que vous avez répondu à son invitation de grâce? Est-ce que vous l'avez accueilli personnellement? Jésus-Christ, le Messie, le Lion de Juda, est-ce que vous l'avez accueilli personnellement comme votre Seigneur et votre Sauveur? Mais il reste encore un point que je voudrais souligner dans le texte. Dans l'introduction au livre d'Amos, donc, dans les premières lignes, dans le premier verset, le rédacteur a pris soin de préciser un détail, c'est que les paroles d'Amos sont venues, dit-il, 2 ans avant le tremblement de terre. Et ensuite, au deuxième verset, Amos lui-même va annoncer, dans sa propre introduction à son discours prophétique qui va suivre, que le jour vient, dit-il, où les pâturages des bergers seront dans le deuil, où le sommet du Carmel, une montagne réputée très fertile, où le sommet du Carmel sera desséché. Ces paroles ont pour but d'appeler les auditeurs et le lecteur à la lucidité et à reconnaître que le confort matériel dans lequel nous sommes bien installés, que ce confort matériel est précaire et de toute façon qu'il est éphémère. Dieu prévient son peuple concernant la fragilité de leur situation, malgré l'illusion qu'ils entretiennent peut-être. Si vous doutez du caractère précaire et éphémère du confort matériel, regardez Johnny Hallyday. C'est peut-être ironique que j'ai parlé de Johnny Hallyday la dernière fois également, parce que maintenant il est dans les premiers titres des informations tous les soirs. Parce que Johnny Hallyday, la célébrité, hein, la richesse, l'influence, le pouvoir même, hein, sur ses nombreux fans. Ben, le 26 novembre dernier, Johnny Hallyday s'est fait opérer d'une hernie discale. Et les 100 millions de disques qu'il a vendus n'ont pas empêché que l'opération ait des complications. Qu'elle entraîne une infection qui a commencé à toucher sa moelle épinière et à mettre sa vie même en danger, au point où Johnny Hallyday, si vous avez suivi les informations cette semaine, a dû être placé dans un coma artificiel entre la vie et la mort. L'exemple des soucis de santé, pardonnez-moi, de Johnny Hallyday devrait suffire, n'est-ce pas, pour nous faire prendre conscience, ou peut-être reprendre conscience, que le confort matériel est précaire et qu'il est de toute façon éphémère. Quelle présomption que de penser que notre vie pourrait tenir à autre chose qu'à la seule volonté souveraine de Dieu. De temps en temps, il y a une catastrophe naturelle, un accident, un acte de terrorisme qui pourrait nous ébranler, n'est-ce pas? Et qui pourrait remettre en question la confiance que nous plaçons, par exemple, dans notre carrière professionnelle, ou bien dans nos compagnies d'assurance, parce qu'on est bien couvert de nos jours, ou bien encore dans l'État-providence. Hein. Mais tant que ça ne nous touche pas personnellement, vous savez, la réalité, c'est que tant que ces choses-là ne nous touchent pas personnellement, j'ai l'impression qu'on est bien facilement happé de nouveau dans l'illusion que nous vivons dans une sécurité qui tient à autre chose qu'à Dieu seul. Amos prend la parole, 2 ans, avant qu'un véritable tremblement de terre ramène concrètement le peuple à la réalité. 2 ans auparavant, Dieu avait prévenu son peuple. Amos prend la parole et dès le début de son message, il appelle les gens à la lucidité. À la lucidité. Ce n'est pas parce que vous pensez que vous vous en sortez très bien comme ça que le deuil et la disette ne vont pas vous toucher un jour. Tout le confort, toute la sécurité, toute la prospérité, la santé et le bonheur que nous pensons avoir peut disparaître du jour au lendemain et d'ailleurs disparaîtra bel et bien un jour. Jésus a répété ce même appel à la lucidité quand il a dit, vous connaissez cette parole très bien, Matthieu 16, verset 26, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces deux premiers versets, donc deux versets, les premiers du livre d'Amos? Bien, la situation qu'a connue le peuple de Dieu à cette époque-là, à l'époque du prophète, est une situation récurrente, une situation habituelle. Nous la connaissons aussi encore aujourd'hui en tant que croyants. Nous vivons dans un contexte qui nous permet aujourd'hui, en 2009, de nous installer dans un confort qui, à son tour, peut nous faire imaginer, comme je le disais, peut-être malgré nous, peut-être inconsciemment, qu'on peut très bien se passer de Dieu. Cette idée peut se manifester par différents symptômes dans nos vies, à chacun. La présomption, la suffisance quand les choses vont bien, et puis la dépression quand les choses vont mal. Ou encore par le fait de négliger la prière, la lecture de la Bible, l'assistance au culte d'une église où la Bible est fidèlement enseignée. Ces choses-là sont des symptômes de cette tendance à se dire ben, « on peut très bien s'en sortir sans Dieu ». Ou encore le fait d'attribuer plus de crédibilité et de poids aux messages étincelants et agréables de nos médias aujourd'hui, si puissants et si présents, plutôt qu'aux affirmations sobres, radicales et oui, souvent dérangeantes de la foi chrétienne authentique. Mais si nous nous désintéressons de Dieu, Dieu, quant à lui, n'a pas cessé de s'intéresser à nous. Il veut que nous sachions qu'il continue à se faire connaître. Peut-être pas par les moyens tonitruants que nous aurions imaginés. Mais il continue à se faire entendre, oui, et principalement depuis le peuple qui porte son nom, depuis l'Église, lorsque l'Église proclame fidèlement sa parole. Et il veut que nous prenions conscience du danger qui nous guette, celui de s'installer dans un confort matériel qui est en réalité précaire et de toute façon éphémère. Alors, je termine avec cette question, alors, quelle attention portez-vous au son de sa voix? Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous ramener à la réalité par ces premiers versets du livre de ton prophète Amos. Merci de nous appeler à la lucidité, à comprendre que tous ces bienfaits qui ne sont pas mauvais en soi sont accompagnés quand même du danger réel de penser qu'on peut très bien s'en sortir sans toi, qu'on peut très bien vivre dans le confort et la sécurité, voire même le bonheur, sans nous intéresser à toi. Mais c'est une illusion. Merci de nous montrer, Seigneur, que même si nous sommes négligents, toi, Seigneur, tu es le Dieu de l'Alliance, tu es fidèle à tes promesses et tu es intervenu dans l'histoire pour tout accomplir à notre place. Et aujourd'hui encore, en 2009, tu continues à donner de la voix, tu continues à te faire entendre depuis ton peuple qui porte ton nom, depuis l'Église quand elle proclame ta parole. Merci, Seigneur. Merci d'être en permanence au plus près de nous. Merci. Au nom de Jésus. Amen.